Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Louis II de Bavière et Wagner, une passion interdite. C'est le titre de l'ouvrage que vient de publier les éditions France Empire. Franck Ferrand a invité son auteur, Sophie Herfort, à nous rejoindre. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous devons à Sophie Herfort quelques-uns, disons-le, des numéros les plus captivants de cette émission au cœur de l'histoire. Je vous rappelle que c'est elle, enquêteuse inlassable, qui était venue il y a 3 ans nous livrer le fruit de ses recherches sur Jack l'Éventreur. L'année dernière, Sophie Herfort nous a fait d'étonnantes révélations sur le modèle de la Joconde de Léonard de Vinci. Eh bien aujourd'hui, ces investigations nous emmènent dans la Bavière fantasmagorique du roi Louis II. L'auteur a étudié de près les tenants et les aboutissants de la relation qu'entretenait le jeune souverain avec un génie de la musique dont on a célébré le bicentenaire l'année dernière, Richard Wagner.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Virginie sur le terme midi appliqué à la géographie pour désigner le sud.
Oui, alors on va essayer de ne pas trop chercher midi à 14h, ni même à 15. Pour l'instant, je vous propose de mettre le cap vers l'est et de nous rendre à Bayreuth sur les traces de Louis et de Richard.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Le roi de Bavière, Louis II, a tellement vécu dans son rêve qu'il nous paraît à nous aujourd'hui un petit peu irréel. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que un siècle et demi après, ce rêve continue de fonctionner. Parmi bien des souvenirs, puisque j'ai eu l'occasion quand j'étais adolescent de me promener pas mal en Bavière, je me souviens d'une visite à Linderhof, une des propriétés du roi. C'était il y a 30 ans de ça. On était à la fin de l'été, imaginez un orage terrible qui nous avait obligés, avec la guide conférencière, à nous réfugier dans un des kiosques des jardins, le fameux kiosque mauresque, qui à l'époque avait d'ailleurs été restauré pour le tournage du film de Luchino Visconti, Ludwig, avec Helmut Berger. Et on était là donc dans ce kiosque avec cette pluie battante. Et d'un seul coup, la pluie s'arrête, comme il faisait très chaud. Il faut imaginer la brume qui remonte du sol et qui transforme cette espèce de jardin en une sorte d'Éden fantasmagorique. Vous marchez au milieu de la brume, au milieu de ces essences rares, jusqu'à l'entrée d'une grotte aux voûtes peintes en bleu, comme les grottes de Capri. Sauf que là, c'est une grotte artificielle, bien entendu. Et vous avez une nacelle en forme de conque tirée par un cygne au milieu de ce petit lac artificiel au milieu de la grotte. Tout ça est assez extraordinaire. Louis II n'était peut-être pas un grand créateur, mais assurément, il était un rêveur éveillé. Or, il a eu la fantaisie, l'audace, la folie d'aller au bout d'un rêve d'adolescent. Ce roi fragile et tourmenté a constamment fui la réalité, une réalité qu'il devait juger trop laide, trop rude pour lui, dans un monde qui avait évidemment, qui avait pour lui beaucoup d'inconvénients. Nous allons y venir, à sa vie et à tout ce qu'il a dû subir. Mais ce qui est extraordinaire avec le roi Louis II, c'est qu'à l'époque où il a construit toutes ces folies, toutes ces fantasmagories qui font un peu penser, disons-le, à Disneyland. Et d'ailleurs, vous savez que Walt Disney, lorsqu'il crée le château de la Belle au Bois Dormant, s'inspire notamment du célèbre château de Neuschwanstein. À l'époque où il fait tout ça, on l'accuse de jeter l'argent par les fenêtres, de dilapider les fonds publics, d'appauvrir la Bavière. Or, aujourd'hui, tous ces châteaux sont devenus un pôle touristique majeur et cela constitue une part non négligeable de la richesse du Land de Bavière. Comme quoi, finalement, il faut parfois que le temps fasse son œuvre pour transformer ce qui peut être considéré comme un excès en véritable placement ou investissement. Alors, qui est-il, ce jeune roi? Il est né en 1845, il est né sous le règne de son grand-père, Louis Ier. J'ai eu l'occasion de vous parler récemment de Louis Ier, car c'est ce roi qui avait pour maîtresse Lola Montès, vous savez, roi tout à fait extraordinaire, et qui avait fait de sa capitale, Munich, l'Athènes du XIXe siècle, en invitant tous les grands intellectuels, tous les grands artistes, etc. Il est devenu Louis II, il est devenu prince héritier à l'abdication donc de Louis Ier, au moment du vent révolutionnaire de 1848. Il a 2 ans et demi seulement à l'époque, et il va succéder à son propre père. Alors là, rien à voir avec Louis Ier, hein. Maximilien II était un homme très classique, disons-le très ennuyeux. Il succède à Maximilien II en 1864, ce qui fait qu'il n'a même pas 20 ans, il n'a même pas 19 ans à l'époque. Et disons-le, avec ses beaux cheveux bruns, tout bouclés, son regard de feu, sa taille très élancée, il mesure 1m92, il a très fière allure, hein, ce Louis II, il ressemble à un vrai prince de conte de fées. Le peuple bavarois l'adore, pour l'instant, encore, il l'adore. Alors ça reviendra plus tard, vous verrez. J'aimerais fixer notre personnage un peu dans le temps et dans l'espace. Je vous dis qu'il devient roi en 1864. Chez nous, on est en plein Second Empire, vous voyez. Aux États-Unis, c'est la guerre de sécession. En Bavière, en Bavière, c'est la paix et c'est la prospérité. La Bavière, c'est un territoire qui fait à peu près 1/7 de la France. Donc, c'est pas si grand que ça. Hein. C'est l'équivalent de 3 de nos régions, si vous voulez. C'est un État qui est indépendant seulement depuis 1805. À l'époque, hein, donc depuis une 60aine d'années, depuis le fameux traité de Presbourg par lequel Napoléon Ier a mis fin au Saint-Empire romain germanique. On va pas rentrer dans toute l'histoire de la Confédération, mais en tout cas, Napoléon a donné naissance à toutes sortes de petits royaumes allemands, dont l'État de Bavière, dont le royaume de Bavière est le plus important. Il est assez petit, ce royaume, mais il est très riche, et ça n'est pas le seul des paradoxes de la Bavière. Il faut imaginer quand même un État qui est très excentré, qui est tout à fait provincial, et qui en même temps, je vous l'ai dit en parlant de cette Athènes de Louis Ier, est un État extrêmement brillant, très attrayant pour toute l'Europe de l'époque. C'est, et ça n'a pas changé quand vous allez en Bavière, un État très conservateur et même, disons-le, traditionnaliste, et en même temps, les Bavarois sont pleins de fantaisie. On peut dire que tous ces paradoxes ont forgé Louis II. Il a sans doute, cet homme-là, des idées trop grandes, trop purs aussi, trop fantasques pour ce petit État bourgeois et classique. Et c'est ce qui explique que très tôt, en mai 1864, donc très peu de temps après son avènement, il se soit pris d'une admiration folle pour ce génie, alors là vraiment de conte de fées, qu'est Richard Wagner. Le jeune roi dépêche un émissaire à Stuttgart, où Wagner est hébergé chez un maître de chapelle. Alors on remet la lettre en main propre à Wagner, et c'est une lettre tout à fait stupéfiante. Il faut imaginer la tête que peut faire Wagner lorsqu'il lit ce que lui écrit le jeune souverain. Il faut se dire qu'à l'époque, Wagner est complètement désespéré. Certes, les grands opéras, le vaisseau fantôme, toute la tétralogie, etc. existent, mais c'est un musicien qui a peu d'audience à l'époque, qui n'a plus d'argent du tout, qui n'a pas encore vraiment de reconnaissance. Et là, coup de baguette magique, voilà la lettre que lui adresse le roi de Bavière. « Monsieur, j'ai chargé le conseiller de la cour Pfistermeister de s'entretenir avec vous d'une demeure qui vous conviendrait. Soyez persuadé que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour compenser vos souffrances passées. J'écarterai à jamais de votre tête les médiocres soucis de la vie de chaque jour. » On aimerait bien recevoir ce genre de lettre, hein. ça fait presque envie. « Je vous ménagerai la paix à laquelle vous aspirez afin que vous puissiez librement déployer les ailes puissantes de votre génie dans le pur éther de votre art enivrant. Vous avez été, sans le savoir, la seule source de mes joies et dès ma plus tendre adolescence, vous avez été mon ami, celui qui, comme nul autre, aura su parler à mon cœur, mon meilleur maître, mon éducateur. Je veux de mon mieux m'acquitter de tout cela envers vous. Avec quelle joie, ajoute le jeune roi, ai-je aspiré au temps où je pourrais le faire? J'osais à peine nourrir l'espérance d'être sitôt, entre parenthèses, ça fait plaisir pour son père, en état de vous prouver mon amour, avec mon salut le plus cordial, votre ami, et c'est signé Louis, roi de Bavière. je crois que Richard Wagner doit se dire qu'il a gagné le gros lot. Alors, dans des conditions qui du jour au lendemain deviennent excellentes, il va créer Tristan au Hoftheater le 10 juin 1865. Il est tout à fait séduit lui aussi par ce roi si jeune, si pur et qui lui manifeste tout de suite une affection débordante. Voici ce qu'a écrit à ce propos Bernard Gavotti. Allez donc conseiller la modération dans les propos, la froide raison dans les échanges épistolaires, de simples accusés de réception, quand l'un perçoit une fortune et l'autre un chef-d'œuvre. L'aventure est sans précédent, elle sera sans lendemain, nous dit-il. Et c'est vrai que les termes employés par le jeune roi pour s'adresser au compositeur, et nous allons y revenir évidemment avec Sophie Herford, sont assez peu banals. Alors c'est vrai qu'on est au 19e siècle et qu'on a non seulement la plume facile, mais l'affection généralement débordante. Tout de même, « Mon ami aimé », écrit Louis II en tête de ses lettres. « Mon Dieu, mon sublime adoré, jamais vous ne serez aimé par d'autres autant que par moi. Mon Seigneur, ma colombe, mon tout, mon unique et véritable raison de vivre en amour éternel jusqu'à la mort, mon splendide ami adoré, je vous en passe et des meilleurs. » Vous avouerez qu'il y a de quoi tout de même froncer un peu les sourcils.
Wagner sur Europe 1, un extrait de l'opéra Tannhäuser. Nous revenons à votre récit, Franck, et à la relation qu'entretenait Louis II, roi de Bavière, avec Richard Wagner.
Quelle voix hein, que celle de Placido Domingo sous la baguette de Sinopoli. Ce morceau, O du mein Holder Abendstern, O toi mon étoile du soir, fait partie aussi de la bande originale du film de Luchino Visconti, hein, Ludwig, le crépuscule des dieux en français. Alors, évidemment, cette affection débordante que manifeste le jeune roi de Bavière à l'égard de ce compositeur certes génial, mais qui, la veille encore, était sinon inconnu, du moins relativement peu apprécié, va susciter toutes sortes de jalousies. Il faut imaginer ce qui se passe à la cour de Bavière, des petitesses, on peut dire qu'à Munich, évidemment, le gouvernement, les élites, tout le monde se pose des questions et l'on va pousser autant qu'on peut, on va pousser le roi à la rupture, au moins épistolaire. On demande que, c'est le gouvernement, hein, ce sont des demandes officielles, on demande que Richard Wagner quitte Munich. Alors il va s'en aller à Tribschen, hein, il s'en va en face de Lucerne avec sa femme, avec Cosima. Et Louis II va être contraint, en quelque sorte, de modérer ses emportements. C'est incroyable la violence, d'ailleurs, hein, qu'on exerce sur ce roi. Il est si beau et si charmant, il est si riche de cœur et d'esprit, écrira Wagner, que je crains de voir sa vie s'évanouir dans ce monde de terre, nous dit Wagner, comme un divin rêve inconsistant. Et plus tard, bien entendu, parce que Louis II ne cessera jamais d'encourager Wagner, plus tard, il fera construire pour lui, on sera en 1876, le célèbre théâtre de Bayreuth. Mais, et la question se pose, de savoir évidemment quelle était la nature de cette liaison entre Louis II et Wagner. Il faut savoir que Louis II s'était quand même pendant toute sa vie entiché d'un certain nombre de jeunes hommes, le prince Paul von Thurn-Untaxis, l'acteur Joseph Kainz, l'écuyer Richard Hornick, hein, bien entendu, le plus célèbre, ou le cheval léger Alphonse Welker, par exemple. Et donc, on peut se demander si, d'une manière ou d'une autre, Wagner n'aurait pas été son amant, son ami de cœur, on peut le dire. C'est quasiment une certitude. C'est tout l'objet de cet ouvrage de Sophie Herford que nous allons voir avec l'auteur dans un instant. Alors, en 1987, ont été publiés chez Grasset les carnets secrets de Louis II. Alors, c'est toujours un peu ennuyeux d'aller fouiller dans ce genre de documents, parce que on est dans l'intimité même du roi, bien entendu. Ce sont des carnets dont le but n'était évidemment pas d'être publié, hein, c'était tout ce qu'il y a de plus secret. On est vraiment dans le journal très intime. Mais on y trouve toutes sortes de serments assez extraordinaires que se fait le jeune roi à lui-même, au nom du roi Louis XIV et du roi Louis XV, écrit-il, parce qu'il faut dire qu'il avait une admiration sans borne pour la monarchie française. Il est ordonné que dans la nuit du 14e octobre 1872, il a écrit ça en français, avec d'ailleurs deux ou trois fautes d'orthographe, c'est assez touchant, on s'est touché pour la dernière fois, dit-il. Souvenez-vous, point d'exclamation, et il met entre parenthèses 3X. Désormais jamais, 3X et 3 points d'exclamation. Et il signe « Juré au nom du grand roi ». Le grand roi, c'est Louis XIV, bien entendu. Il y a dans ce journal des choses étonnantes. En janvier 1872, réconciliation avec Richard, bien-aimé de mon âme, dit-il. Le 21, anniversaire de la mort du pur et noble roi Louis XVI, symboliquement et allégoriquement le dernier péché, sanctifié par cette mort expiatoire, lavé de toute boue, devenu un pur vaisseau pour l'amitié et l'amour de Richard. Alors, vous vous dites, mais Richard, c'est Richard Wagner? Non, non, non. Le Richard dont il est question là, c'est le beau Richard Hornig, qui est l'écuyer aux cheveux de Soleil, comme l'appelait Louis II, et s'en va souvent avec lui dans de longues escapades. C'est notamment lui qui va l'accompagner à l'exposition universelle de Paris en 1878. On peut dire que lorsque Louis II... Non, cette exposition-là, pardon, c'était celle de 1867. D'ailleurs, je confonds deux expositions universelles. On peut dire que lorsque Louis II se tourmente de cette manière, lorsqu'il est le premier ennemi de ses propres penchants, c'est un être complètement perdu. Et évidemment, celui qui, dans cette situation très complexe, va lui servir en quelque sorte de boussole, de repère, c'est Richard Wagner, toujours, même s'il a de moins en moins l'occasion, et on pourrait même dire le droit de le voir. Louis II est rongé par la culpabilité, par le dégoût de lui-même. Il essaie de conjurer le sort en se fiançant avec sa cousine, qui est la Sophie de Bavière, la plus jeune sœur de l'impératrice Sissi. Mais en vérité, les fiançailles ne vont pas tenir, elles vont être rompues. Pour le jeune roi, qui à l'époque a 25 ans, commence alors une sorte de fuite hors de lui-même, qui va passer justement par cette édification de châteaux et de domaines pleins de rêves, qui vont lui permettre de faire entrer le rêve dans la vie. Alors des châteaux de toutes sortes d'inspirations, germaniques, wagnériennes, ça c'est Neuschwanstein, hein, qui ressemble un peu à Pierrefonds à la même époque chez nous. Une inspiration française, c'est le Trianon, si je puis dire, de Linderhof, ou c'est le château de Herrenchiemsee, qui ressemble exactement au château de Versailles, et dont la galerie des glaces mesure 22 mètres de plus que celle de Versailles. Ou une inspiration chinoise aussi, avec le fameux palais sur la Planzé, sur le Planzé doit-on dire. Il faut dire que Louis II exige autour de lui une étiquette de plus en plus étonnante, de plus en plus orientale pour ne pas dire chinoise. Il vit dans un monde à part, il vit de plus en plus dans son monde à lui.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur Louis II et Richard Wagner. Et nous repartons en Bavière avec vous, Franck Ferrand, pour parler de cette relation qu'entretenait Louis II, roi de Bavière, avec Richard Wagner.
Vous l'avez bien compris, Louis II a un petit côté... il est atteint de la folie douce des Wittelsbach, vous savez. Hein, c'est sa famille, après tout. Ils ont tous un petit grain, si je puis dire. Enfin, ils avaient. Attention, je ne veux choquer personne. Je pense au frère de Louis II, tout simplement, le prince Othon, qui a dû même être interné, lui, dans une institution psychiatrique. Pensez tout simplement à la cousine Wittelsbach de Louis II, c'est-à-dire l'impératrice Élisabeth d'Autriche, hein, la Sissi dont je parlais tout à l'heure, dont on peut pas dire qu'elle ait été quand même un grand modèle d'équilibre mental. D'ailleurs, ils s'aiment beaucoup, les deux cousins, ils se voient pas mal. Luchino Visconti en a tiré un film de ça. Ils font des grandes promenades, des chevauchées ensemble, ils vont canoter sur le lac de Starnberg jusqu'à l'île aux Roses. Elle fuit, elle, vous savez, en fuyant, en se promenant partout à travers l'Europe, et lui, il fuit dans une sorte de voyage immobile, ce qui fait que la démarche est opposée, certes, mais le résultat est un peu le même. Louis II fuit désormais les obligations de sa charge, les contraintes officielles. Quand il doit passer, pour des raisons gouvernementales, quand il doit aller passer 3 jours à Munich, c'est le bout du monde. Et tout est fait autour de lui pour le maintenir dans cette espèce de bulle stérile et lointaine. Alors, il est plein de manies, de tics étonnants. Il exige que ses tables soient fleuries de gerbes absolument extraordinaires. On peut dire qu'il va peu à peu s'enfoncer dans ce que l'on voudrait considérer comme de la folie, parce qu'à côté de ça, il continue à dépenser. Il dépense de plus en plus. Et ça, ça inquiète énormément les responsables de l'État bavarois. Il n'est pas si fou que ça quand même Louis II, et je me permets quand même de faire remarquer qu'il aura été peut-être pas le seul, mais en tout cas parmi les souverains allemands, il a été celui qui a le plus résisté à la volonté de Bismarck de créer, de recréer le Grand Empire, hein. Et au moment de la constitution du Deuxième Reich en 1871, le 18 janvier 1871, avec cet empire est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles, le seul qui n'est pas présent parmi les souverains allemands, qui n'a pas fait le voyage de Versailles, qui a envoyé certes son frère, mais qui lui s'est opposé autant qu'il l'a pu à la volonté de Bismarck, c'est bien Louis II tout de même. En 1883, Louis II va recevoir la dépêche de Venise, lui annonçant la mort de Wagner. Nous allons voir comment il la reçoit dans un instant avec Sophie Herfort. À l'époque, c'est devenu un gros monsieur irascible. Le changement physique est impressionnant. Je vous ai parlé de ce jeune roi qui était tout mince, tout élancé. Maintenant, il pèse 120, même plus de 120 kilos. Le changement physique est vraiment impressionnant. Il est très irascible, très exigeant. Il exige de son service intime, toutes sortes de pantomimes un peu extravagantes. Et quand je vous disais qu'il fait des dépenses, il en est à songer à endetter l'État. Il se prépare à emprunter à des banquiers parisiens 40 millions de francs or de l'époque à 4% pour terminer ses grands châteaux. Évidemment, ça inquiète tout le monde, et on se renseigne auprès de celui qui gère ses affaires, que le roi appelle Monsieur le Chancelier, Selschwert, et qui dit qu'effectivement les choses deviennent inquiétantes. On essaie autour de lui de protéger Louis II néanmoins. Le 9 juin 1886, une délégation de hauts personnages munichois, dirigée par le docteur von Guden, et puis par un certain nombre de personnes, il y a quand même 4 infirmières qui accompagnent la délégation, viennent, et les voilà qui arrivent à Neuschwanstein pour prendre possession du roi, si je puis dire. C'est un échec, cette première tentative. Sauf que la délégation est de retour 2 jours plus tard, et que cette fois, il n'y a plus moyen de faire demi-tour. Voici ce que dit le docteur von Guden. « Sire, j'ai reçu aujourd'hui la mission la plus triste de ma vie. 4 médecins alliés vous ont observé, et sur leur rapport, le prince Luitpold a pris la régence. J'ai l'ordre d'accompagner cette nuit même votre majesté au château de Berg. Si votre majesté l'ordonne, la voiture sera prête à partir de 4 heures. » Et après un bref silence, parce que Louis II est complètement hébété par ce qu'on lui annonce, il entre en conversation avec Guden et lui demande très judicieusement « Comment pouvez-vous déclarer que ma raison est atteinte puisque vous ne m'avez pas examiné ?» Et l'aliéniste répond, un examen n'était pas nécessaire, sire. Les documents dont nous disposions sont des documents accablants. Alors, on connaît la suite, la terrible suite. Hein, le dimanche suivant, le dimanche de la Pentecôte, le 13 juin 1883, le roi annonce en fin de journée qu'il désire se promener au bord du lac. Il a mangé et bu pas mal, et il se dit qu'un peu d'air frais, enfin, il annonce qu'un peu d'air frais lui ferait du bien. Alors, le docteur von Guden l'accompagne, seul. Ils s'éloignent tous les deux. Il est environ 18 heures sous les frondaisons du parc. Ils avancent près des rives du lac de Starnberg. La nuit commence à tomber. Il était prévu qu'il ne marche qu'une heure, sauf qu'à 20h, il n'y a toujours personne, à 21h non plus, on commence à s'inquiéter, on va les chercher dans le parc, on ne les retrouvera pas, ou plus exactement, ce qu'on retrouvera, ce sont leurs 2 corps noyés, et ça, c'est une des grandes énigmes de la fin du 19e siècle. Bonjour Sophie Herfort.
Bonjour Franck.
D'une énigme à l'autre, si je puis dire, nous allons commencer par celle qui vous préoccupe et celle à laquelle vous avez consacré cet ouvrage, la nature même de cette relation entre Louis II et Wagner.
Nous sommes au cœur de l'histoire et cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, de Louis II et Wagner, avec votre invité Sophie Erfort, historienne et écrivain, auteur de Louis II de Bavière et Wagner, une passion interdite, aux éditions France Empire.
Une passion interdite, point d'interrogation a ajouté Sophie Erfort dans le titre, enfin le sous-titre de cet ouvrage. Alors il faut dire, Sophie Erfort, que lorsque nous avons consacré il y a quelques mois une émission à Richard Wagner, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, j'ai dit et répété, j'en avais d'ailleurs fait le thème de mon récit, que c'était un homme à femmes, il était entouré de femmes, il adorait les femmes, etc. Et d'un autre côté, lorsqu'on parle généralement de Louis II, on a un peu changé de point de vue depuis 1987 forcément, mais enfin tout de même, lorsqu'on parle de lui, on en parle toujours comme d'un roi très pur, et même Richard Hornick, hein, celui qui est réputé être son amant, dit « mais attention, il y avait une passion entre le roi et moi, mais il n'y a jamais eu le moindre geste déplacé, il n'y a jamais eu de relation charnelle, etc. » Donc, d'un côté, un jeune roi très pur, de l'autre un vieux musicien qui adore les femmes, on a envie de dire quelle relation entre les deux. Bien, pour le savoir, vous êtes allé éplucher, notamment à la Staatsbibliothek de Munich, hein, dans ce fonds d'archives extraordinaire, 600 lettres que se sont adressées le roi et le compositeur.
Absolument. J'ai également fait quelques recherches aux archives de Nymphenburg, là où est né Louis II. Et en plus des recherches qui m'ont mené à analyser les missives entre ces deux hommes, tout porte à croire que la nature de leur relation ne relève pas uniquement du champ épistolaire. Je pense que certainement l'histoire a tout à y gagner, à jouer un petit peu les hypocrites, mais qu'il est temps surtout à notre époque de lever un voile et qu'il n'est pas honteux, eu égard à la réputation de Richard Wagner, qui est un compositeur hors norme, de mettre à jour quelques éléments qui certainement montreraient une autre façade de sa personnalité intime. Et le rapport qu'il a avec Louis II de Bavière est un rapport bien sûr qui dépasse le simple mécénat.
Alors,
mon avis.
Pour écarter tout de suite, et je l'ai fait un peu tout à l'heure dans le récit, mais pour écarter tout de suite les critiques que pourraient nous adresser les spécialistes de l'histoire des mentalités, notamment du 19e siècle, il était tout à fait coutumier dans la correspondance de l'époque, on s'en rend compte lorsqu'on regarde n'importe quelle lettre hein, d'ailleurs, d'être très démonstratif. Regardez par exemple les lettres de George Sand, de ce point de vue c'est presque drôle. Hein. On manifeste une affection très profuse. Hein.
Absolument, au 19e siècle, on est quand même en pleine époque du romantisme,
c'est ça, voilà.
L'exaltation, le pathos, les échanges épistolaires revêtent un caractère vraiment très intimiste, donc il n'est pas rare effectivement qu'il y ait ce genre de propos doucereux entre des personnages qui se respectent.
Et qui par ailleurs n'ont pas de liaison du tout, ça peut arriver.
Et qui par ailleurs parfois n'ont pas de relation plus intime. En revanche, lorsque des éléments de preuve viennent s'adjoindre à l'ensemble de ces correspondances et que l'histoire cherche un petit peu à étouffer certains éléments, il est de bon ton peut-être de révéler certains éléments.
Alors, la première critique qu'on a souvent adressée à Wagner, et disons-le, ça n'enlève rien au génie du compositeur que d'admettre que le personnage avait quand même des travers qui n'étaient pas tristes, c'est qu'il était un homme assez intéressé, qu'il courait toujours après l'argent, parce qu'il faut dire qu'il vivait sur un très grand train de vie, hein, très grand pied, et on pourrait imaginer que, on l'a souvent dit et même écrit, je me rappelle un de mes invités qui avait dit ça à ce même micro, c'était Jean Descartes en l'occurrence, que Wagner avait quand même profiter de la générosité de ce roi. Est-ce que vous allez dans ce sens, vous ?
Je vais absolument dans ce sens. Oui. Déjà, d'après les témoins de l'époque, qui confirment l'état de vénalité aussi de Wagner. Et puis, il faut surtout dire qu'il connaît une renommée tardive.
Oui.
À l'âge de 50 ans, là où d'autres s'effondrent d'avoir constaté qu'ils n'ont pas atteint la notoriété voulue, parce qu'à cette époque-là, il faut quand même rappeler qu'il est juste petit chef d'orchestre, et puis accessoirement Kapellmeister, donc chef de chapelle de la cour de Saxe, ce qui représente des petits postes. Il en a assez d'être dans un obscurantisme. Il aime les femmes, et il aime l'argent, ça c'est indéniable. Tous les témoins le prouvent et les correspondances entre Louis II de Bavière et Wagner montreront qu'il est tellement proche de l'argent qu'il est prêt à envoyer ses maîtresses, et notamment celle qui deviendra sa femme, Cosima Wagner, auprès de Louis II de Bavière pour aller quémander une enveloppe.
Alors en même temps, le poète qui a ressuscité ces chevaliers d'une grande pureté qu'ont pu être Siegfried ou Lohengrin peut très bien avoir été touché sans forcément, encore une fois, être bouleversé sensuellement, mais peut avoir été profondément touché par ce jeune souverain qui d'abord est très beau et très pur et lui voue d'emblée une admiration sans borne. Qui ne serait pas un peu troublé par ces déclarations.
Bah, c'est vrai que Louis II de Bavière, à l'époque où il rencontre Wagner, il a 16 ans, il est d'une beauté flamboyante. Tous ceux qui en sont témoins, le comte de Hohenlohe, même les gens qui sont à son service, les aides de camp, sont absolument éblouis. Et toute la cour d'Europe sombre devant une telle beauté. On sait qu'elle va se flétrir plus tard, mais on sait qu'il aime s'entourer d'aides de camp toujours plus jeunes et que ça tourne très vite. On ne s'arrête pas à Pfistermeister, il y a Van Duflip, il y a énormément de... Paul de Taxis devient aussi son aide de camp, de jeunes qui n'ont pas forcément les compétences pour les postes qu'on leur confie et qui aiment la présence du roi et qui ne s'en cachent pas. Et je pense qu'il y a un refoulement chez Louis II de Bavière puisqu'il est prêt à installer une balustrade comme dans sa chambre, ça devient pathétique à la façon de Louis XIV pour s'empêcher lui-même d'avoir des tentations. Il n'arrête pas de répéter dans ses journaux, il répète à l'envi que les plaisirs sensuels, il s'en écarte et qu'il veut justement uniquement rester dans un plaisir spirituel.
Oui, ce fameux journal publié par Grasset en 87 nous montre encore une fois un homme totalement torturé, d'une culpabilité totale, qui lutte contre ses propres penchants et qui, c'est une sorte de combat permanent hein, que va mener Louis II. Donc ça personne ne le conteste, évidemment. Ce qui pose problème, et nous allons venir dans un instant au témoignage et à tout ce qu'on peut dire, bien entendu, mais ce qui pose problème, c'est de savoir s'il y a eu une liaison réellement amoureuse avec Richard Wagner lui-même. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant très longtemps, pendant toute sa jeunesse, le roi Louis II a admiré de loin Richard Wagner. Il admirait son œuvre, il était complètement bercé par sa musique qui devait faire vibrer en lui quelque chose de très particulier, hein, c'est même une certitude. Et l'une des premières choses qu'il fait lorsqu'il devient le roi, c'est de prendre Wagner sous sa protection, de lui donner de l'argent, de lui chercher un lieu où il puisse composer tranquillement, etc. On peut peut-être raconter leur première rencontre, Sophie Erfort.
Absolument. Donc la première rencontre, c'est, je dirais, des conditions assez romantiques et peu communes, presque assez ubuesques aussi, puisqu'ils se rencontrent le 2 février 1861 lors de la première représentation musicale de Lohengrin, qui est le mythe du chevalier pur, au Residenz Theater. Donc, l'Opéra Royal de Munich. Alors, effectivement, Louis II est dans sa loge, il est en transe, il a ses mains qui trépignent sur les accoudoirs. D'une minute à l'autre va se jouer peut-être le spectacle de sa vie. Il aurait voulu y assister plus jeune, mais son père était farouchement contre. Puisque
le père était le roi. Hein, quand même.
Le père était comme le roi. Donc Maximilien II, nous l'avons dit tout à l'heure, était comme un homme rigide, beaucoup plus rigide que Louis Ier, donc le grand-père de Louis II. Il ne veut absolument pas que ces deux-là se rencontrent, que Louis II de Bavière et Wagner se rencontrent, parce que Wagner traîne une réputation de communiste, de roi de la barricade, hein, parce qu'en 49, il avait suivi Bakounine et qu'il voulait un renversement de la royauté, ce qui peut expliquer pourquoi pendant si longtemps, depuis 1850, pour être exact, il était déjà tout petit Louis II qu'il voulait déjà voir effectivement une représentation de Wagner. Et là, il en a l'occasion. Seulement, il est dans un tel état d'excitation qu'il ne peut se maîtriser. À la fin donc, de la représentation, il s'apprête à saluer Wagner lorsqu'il est pris de tremblements. Et là, ce que l'on redoute le plus, ce que redoutaient les aides de camp qui étaient à ses côtés, notamment Lenfelder, qui est vraiment penché au-dessus de son épaule d'un air soucieux, c'est qu'il va arriver, c'est-à-dire qu'il va avoir une crise d'épilepsie et on va devoir le rapatrier in extremis quand même au palais de la résidence munichoise. Donc il ne pourra pas voir tout de suite Wagner. Il devra attendre 3 ans pour le voir. 3 ans de trac, vraiment grâce à l'aide de son chef de cabinet Pfistermeister, pour essayer de retrouver Wagner qui est poursuivi par ses créanciers et qui se cache. Alors, c'est l'ironie du sort, c'est qu'il est venu pour le voir, Louis devenu pour le voir, mais devoir patienter 3 ans pour le voir.
C'est là qu'il va y avoir la fameuse lettre que je lisais tout à l'heure, cette espèce de déclaration du roi et cette protection donnée par celui qui, entre-temps, est devenu le nouveau roi de Bavière, hein, par Louis II. La rencontre, elle a lieu, alors comment ça
alors,
se passe?
La rencontre, tout d'abord, précisons qu'il a fallu attendre un certain bout de temps, donc les correspondances n'en vont pas toutes aboutir parce que Wagner est en errance, il est un coup à Zurich, il a Marienfeld, on le cherche partout, il est même parfois à Munich. Il est insaisissable, on va le retrouver chez un maître de chapelle à Zurich, une extrémiste en fait. Et c'est le chef de cabinet Pfistermeister qui a eu reçu la pression sur les épaules de le retrouver. Il le retrouve le 2 mai 1864. Et ce n'est pas rien au terme de ses correspondances, il y a un cadeau à la clé. Un rubis hein, de toute beauté, Louis II sait y faire manifestement. Il veut à sa cour ce nouvel artiste incompris, parce qu'il sait très bien que de toute façon Wagner est traqué, il va en faire son pianiste officiel. Donc à partir de là, il y a une chance à saisir. Donc, Pfistermeister rejoint chez le maître de chapelle, Karl Eckert, Wagner, et lui propose, lui fait le choix de sa vie en lui demandant de venir expressément à la cour, à la résidence munichoise pour rencontrer Louis II de Bavière.
On appelle la résidence à Munich, qui est donc l'endroit où vit Louis II.
Où vit Louis II de Bavière. Et là, manu militari, effectivement, Wagner ne peut plus se cacher plus longtemps. S'il a douté des correspondances qu'il recevait, il ne peut plus douter de la visite en personne de celui qui représente Louis II de Bavière. Il accepte la proposition de Pfistermeister. Deux jours plus tard, il arrivera donc au palais de la résidence.
Entre parenthèses, je le précise tout de suite, Wagner est marié à cette époque.
Hein. Absolument.
Il vit avec la célèbre Cosima
Mina Planer.
Ah oui.
Tout à fait, il est marié à Mina Planer, depuis 1936.
Et il a une liaison par ailleurs avec
Mathilde Wesen donc, et il en a beaucoup des maîtresses, il est également Cosima.
Cosima von Bülow.
Cosima von Bülow.
Alors nous venons dans un instant à ce qui a bien pu se passer et au témoignage que vous avez retrouvé, Sophie Erfort.
Sur Europe 1, un extrait de l'ouverture de l'opéra Tannhauser, dirigé par Karajan. Nous sommes au cœur de l'histoire de Louis II et Richard Wagner, justement, leur relation. Vous en parlez, Franck Ferrand, cet après-midi avec votre invité Sophie Erfort, historienne et écrivain, auteur de Louis II de Bavière et Wagner, une passion interdite aux éditions France Empire.
Alors Sophie Erfort, venons aux choses sérieuses, si je puis dire. On a donc toutes ces lettres extraordinaires d'un amour transi de la part de Louis II. Ça, personne ne le conteste. La grande question est de savoir si cet amour est partagé, premièrement, et deuxièmement, si c'est un amour platonique ou si c'est un amour qui a été consommé d'une certaine manière. Alors, que disent les témoins? Vous avez trouvé des témoins de ce qui s'est passé?
Les aides de camp qui entouraient effectivement Louis II de Bavière, justement, précisent qu'il y a une nature presque dangereuse au niveau relationnel entre ces deux personnages quand même très importants. Et notamment, Forden, chef de cabinet, qui a succédé par ailleurs à Pfistermeister, qui sera suivi d'ailleurs par Hohenlohe, qui fait une déclaration bien étrange. « Sire, je tiens Richard Wagner pour l'un des hommes les plus diaboliques qui soit sur Terre, un homme qui pourrait corrompre le corps et l'âme. » Alors pourquoi fait-il cette déclaration ?
Le corps et l'âme.
Le corps et l'âme tout de même. Donc il prévient Louis II de Bavière qu'il faut absolument s'écarter de lui et qu'il ne faut pas accepter justement qu'il commence à s'installer à Munich, parce que d'ailleurs de toute façon il n'est absolument pas aimé de la population qui a en souvenir les soulèvements populaires à Dresde de Wagner. Donc sa réputation a déjà en tout cas dépassé cette époque-là, puisqu'on sait qu'à Munich qui est comme une élite, une population élitaire quand même, sait qu'il faut effectivement écarter le roi de cette tentation.
Mais que Wagner soit un homme intéressé, je pense que personne n'en doute, et que d'ailleurs les contes, tout simplement, en témoignent. Même si, encore une fois, une grande partie des dons que lui a fait Louis II ont été, si je puis dire, bien employés. Je pense à la création de l'extraordinaire théâtre de Bayreuth, qui aujourd'hui est un des hauts lieux de l'opéra mondial. Mais à côté de ça, est-ce que Richard a entretenu, a encouragé, en quelque sorte, la passion du jeune roi?
Alors, si on regarde l'étendue des lettres, quand même 200 lettres sur 20 ans, si Wagner était simplement vénal et pas quelque peu amoureux de Louis II de Bavière, dans ce cas-là, c'est un acteur parfait. Mais en même temps, lorsqu'on regarde un petit peu les témoins de l'époque, Madame de Ville, à qui se confie de manière récurrente Wagner, lorsqu'il dit « mais c'est enfin une passion sans tourment, un homme d'une merveilleuse beauté », lorsqu'il décrit lui de la première fois qu'il le rencontre au palais de la résidence munichoise, lors de cette fameuse rencontre entre Wagner et Louis II, mais il succombe lorsqu'il rentre de cet entretien le 4 mai 1864, mais il est complètement bouleversé. Et il a fait une rencontre qui est, en tout cas au début, platonique, qui est basé sur la beauté un petit peu pure. Et ça, c'est ce que recherche aussi dans ses opéras Wagner. Donc ça complète un peu le fantasme de Lohengrin, le chevalier pur, qui représente un petit peu l'idéal du romantisme allemand. Donc effectivement, il y a une relation qui va se tisser à partir de là, qui va se poursuivre sur la durée. Il n'y a que la constance. Là, on pourrait être envoyé justement à la version de l'amour selon Oscar Wilde, l'important d'être constant. Il n'y a que ça, finalement, qui nous permet de comprendre, plus les témoins de l'époque, qu'on n'envoie pas comme ça plus de 200 lettres d'échange comme ça, passionnées sur 20 ans, si c'est juste de la vénalité comme motif du côté de Wagner. Il y a autre chose.
Ils se rencontrent régulièrement, ils se voient, on le sait.
Absolument, puisque Louis II de Bavière va tout de suite afficher la couleur. Lorsqu'il reçoit donc Wagner le 4 mai 1864, il se charge de lui trouver donc un petit logement à Kempfenhausen, tout près du château de Berg, où il arrive à Louis II de se rendre, et il se cache pas de la motivation qui l'a poussé à faire ça, c'est-à-dire que ça facilite les rencontres au niveau géographique, ils sont amenés à se rencontrer, et d'ailleurs Louis II dit qu'il adore lorsque tous les deux ils sont assis des heures abîmés dans la contemplation l'un de l'autre, et qu'ils arrivent à se rencontrer. C'est une raison de proximité qui va favoriser aussi les logements que va trouver Louis II de Bavière à Wagner, et il va même en changer souvent. Il sera aussi à Seehaus et dans d'autres logements trouvés par le roi, suivant la proximité qu'il y a avec justement les résidences royales.
Alors vous allez loin, puisque vous parlez d'une passion physique, en vérité. Hein.
Alors c'est vrai que la thèse est audacieuse, dois-je rappeler qu'il s'agit d'une thèse, mais en même temps, quand on regarde les mémoires de Louis II de Bavière, on peut percevoir derrière ces métaphores des allusions qui sont quand même très fortes. Les balades en traîneau, le réceptacle d'amour, etc. Toutes ces petits codes où il se désigne lui-même comme étant Louis XIV et Wagner comme étant Louis XVI. Il passe par une série de codifications justement pour échapper à la censure.
Vous pensez-vous que, ces incantations qui figurent dans le journal intime du roi sont des termes à clé en quelque sorte. Vous pensez qu'il y a de véritables personnages derrière les personnages historiques, par exemple.
Oui,
quand Louis II en appelle à Louis XIV, à Louis XV, etc., vous pensez que ça n'est pas au vrai Louis XIV, au vrai Louis XV?
Parce que
Dieu sait qu'il les admirait infiniment. Il les a fait représenter partout dans les châteaux.
Il descend d'ailleurs des Bourbons, donc c'est peut-être ça la raison de son hommage. Alors c'est vrai qu'on peut dire qu'il est à cet égard fou, sauf qu'il ne l'était pas. Et je pense que pour échapper à la censure, il est obligé de créer des avatars. Alors c'est peut-être ça, pour cette raison-là, qu'on a jugé, estimé qu'il était peut-être fou d'imaginer des personnages comme ça, fantasques et disparus depuis la période de l'absolutisme. Sauf qu'en fait, ces personnages, ce sont des avatars pour cacher son homosexualité. Il n'avait pas d'autre recours pour éviter justement les ennuis qu'il connaîtra après lorsqu'il va y avoir le rapport d'expertise qui va l'exonérer du pouvoir, bien sûr.
Dans le film de Visconti, mais c'est le cas de quasiment tous les films de Visconti, disons-le, il y a une scène d'orgie assez célèbre d'ailleurs, hein, dans les arbres, là, ça se passe dans un chalet perdu dans la neige, c'est une scène célèbre du cinéma des années 1970, et on laisse entendre, parce que Visconti ne montre rien précisément, mais il laisse entendre que le roi a participé à des débauches, etc. Mais, nous disent un certain nombre d'historiens, notamment en s'appuyant sur le fameux journal publié en 1987 en France, rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu présence physique du roi. C'est-à-dire qu'il ait été homosexuel, c'est une certitude, qu'il se soit entouré de toutes sortes de valets, etc., qui tous étaient plus beaux les uns que les autres et plus jeunes les uns que les autres, c'est un fait. Pour autant, a-t-il franchi le Rubicon, si je puis dire? Est-ce qu'il est passé à l'acte? Rien ne permet de l'affirmer tout de même.
Rien ne permet de l'affirmer, mais il y a comme des historiens qui reviennent sur cet épisode que vous mentionnez, qui ne serait peut-être pas que du délire de réalisateur de la part de Visconti, mais peut-être qu'il y aurait une base réelle, puisque l'historien qui est Combesco relate quand même ces débauches-là, dignes de Mille et Nuits dans ses citations, et il précise que ces débauches ont lieu à Walchensee, dans les chalets voisinants, que ça se savait des villageois. Donc effectivement, imaginons un roi du 19e 19e siècle, jeune, avant-gardiste, qui assume pleinement son homosexualité, il se heurte nécessairement à un problème de censure de la part du gouvernement et il devient presque dangereux, si j'ose dire, pour la réputation.
De toute façon, il est dangereux à tout point de vue et ça va amener ça à l'autre grande affaire, ce qui est le complot, bien entendu, avec à la fin sa destitution. Hein. C'est le régent Louis de Paul qui prend le pouvoir, enfin à qui on le donne plus exactement. Et Louis II ne survivra pas. Alors, il y a deux choses. Il s'était d'abord brouillé avec Wagner. Ça vous expliquez, ça c'est intéressant. Il y a cette rupture,
alors,
en fait.
Alors, je pense qu'il y a une rupture qui s'est faite en plusieurs étapes. Hein. Donc, il y a eu cette ovation en 1868 à Munich pour les maîtres chanteurs, où l'ultime affront, Wagner va aller saluer son public. Alors là, c'est un acte complètement mégalo, alors qu'au niveau de l'étiquette, le seul, jusqu'à preuve du contraire, qui peut se lever et ovationner, c'est le roi. Donc déjà, il y a effectivement une première rupture de protocole. Il va y avoir aussi des disputes lors des
Surtout
répétitions.
Surtout qu'avec le temps, Louis II devient de plus en plus à cheval sur l'étiquette.
Absolument.
Il se crispe sur ces questions.
Hein. Il est crispé parce qu'il est très bien conseillé autour de lui et en plus l'endettement qu'il va connaître, si ce n'est pas une preuve d'amour. Ça, 13 millions de marques, ça c'est en 1884 lorsque les relevés au niveau des dépenses sont effectués par le gouvernement. Et même Louis II, pour obtenir le droit d'avoir des emprunts, va aller jusqu'à aller voir Bismarck et tous les gens qu'il a autour de lui pour réclamer de l'argent pour construire Bayreuth pour Wagner. Donc il s'humilie quelque part, il est prêt à quémander.
En même temps, je ne veux pas forcément me faire l'avocat du diable, mais vous avouerez, Sophie Herfort, que ça ressemble au dépit, je parle de Louis II, là, le roi, ça ressemble au dépit d'un amoureux éconduit et de quelqu'un qui n'a jamais pu justement trouver à épancher sa passion. Il en a assez d'être indéfiniment amoureux d'un homme qui en profite et qui, en échange, ne lui donne rien, sinon de très beaux opéras. Ça pourrait être ça aussi, peut-être. Louis II mourra le 13 juin 1886, c'est trois ans seulement après la mort de Wagner,
Absolument.
Qui meurt le 13 février 1883. Et alors ça, c'est une autre grande énigme, mais on ne va pas avoir le temps du tout de la traiter, celle-là, mais elle est passionnante. Que s'est-il passé sur ce lac Starnberg? Comment expliquer que le médecin von Guden ait été retrouvé mort à côté du roi, tous les deux noyés dans ce lac? Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce que le roi s'est suicidé? Est-ce que... C'est très très difficile à dire. En tout cas, c'est un mystère. On a beaucoup laissé entendre qu'il avait pu y avoir un assassinat, un double assassinat, hein, qu'on aurait voulu se débarrasser de Louis II.
Une partie des dossiers justement qui maintenant pourraient peut-être être compulsés à Nymphenburg, mais qui prétendent que tout n'est pas éclairci au niveau des rapports d'expertise médico-légaux. Les traces de cyanose et puis la protrusion de la langue qui sont des traits caractéristiques de l'étranglement ont été détectés, repérés donc sur la dépouille, enfin sur le corps de Louis II de Bavière. Donc y a-t-il eu étranglement? Y a-t-il eu affrontement avec le docteur von Guden qui l'escortait donc ce jour de Pentecôte du 13 juin 1886? Nous le saurons probablement jamais. C'est certainement notre mystère que je n'ai pas eu le temps de traiter. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu une relation d'une autre nature que celle que nous connaissons entre Wagner et Louis II de Bavière.
Nous vous avons bien compris. Louis II de Bavière et Wagner, une passion interdite, point d'interrogation. C'est la question que pose Sophie Herfort et à laquelle elle répond largement dans cet ouvrage publié par France Empire.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Virginie sur le terme midi appliqué à la géographie pour désigner le sud.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Virginie, qui nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1, qui aimerait savoir d'où vient le terme midi dans le canal du Midi, et si cela a un rapport lorsqu'on dit descendre dans le Midi ou le Midi de la France.
Et comment que ça a un rapport? Alors la réponse est assez facile. Là. Honnêtement, ce n'est pas aujourd'hui un gros défi, Virginie. Le terme midi signifie le milieu du jour, hein, bien entendu, dies le jour en latin, midi, ben la mi-journée, tout simplement. Et assez vite, c'est vrai que ce terme temporel a pris une dimension spatiale, le midi désignant un des quatre points cardinaux, le sud en l'occurrence. Alors pourquoi? Parce que nous sommes dans l'hémisphère nord, n'est-ce pas? Et qu'en France ou en Europe, d'une façon générale, là où on a fixé tous ces termes, à midi, la position du soleil indique précisément le sud, surtout lorsqu'on est dans des saisons hivernales. En Italie, on trouve la même chose. Vous avez le Mezzogiorno, par exemple. Bon, c'est le même fonctionnement. Alors peu à peu, on s'est mis, et par ça c'est une habitude qu'on a prise, et peut-être parce que c'était plus joli aussi, par désigner le sud par le midi. Ce n'est pas l'historien de Versailles que je suis qui ignorera évidemment qu'on ne parle pas d'aile sud. On parle bien de l'aile du nord à Versailles, mais on parle de l'aile du midi, enfin, etc. On disait le midi pour désigner le sud. On voit la même chose dans tous les pays de langue française. Quand vous allez à Bruxelles, par exemple, la gare du sud, c'est la gare Bruxelles midi, etc. On s'est mis peu à peu à désigner même carrément des régions, hein, ce qu'on appelle le midi de la France. Sur un plan climatique, c'est toute la région qui est située au-dessous du 45e parallèle et qui correspond donc à une ligne en gros Bordeaux-Valence, si vous voulez. D'où certaines appellations. On parle de la région Midi-Pyrénées, par exemple. On parle du canal du Midi, etc. Vous voyez d'où ça vient. J'allais dire, c'était simple comme une ombre au soleil de midi.